bienvenue à vous qui êtes ici, qui avez bravé le froid de moins 20, moins 30, moins 40 degrés pour être là en personne. Et bienvenue aussi à toute notre communauté en ligne, à toi qui es de l'autre côté de l'écran. Juste dans les dernières semaines et mois, juste vous donner un petit peu une idée de tout, à quel point les réunions, les prédications du dimanche, nos réunions sont suivies. Nous avons des gens qui nous écrivent et qui suivent fidèlement nos célébrations partout à travers le Québec, dans toutes les régions du Québec, du Canada et voici quelques pays du dernier mois, de France, de Suisse, de Belgique, de Côte d'Ivoire, du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazza, du Gabon, du Cameroun, de la Martinique, de la Guadeloupe, de l'île de la Réunion, d'Haïti et de Tahiti, de la Polynésie française, mais aussi des États-Unis, des francophones qui sont aux États-Unis, des francophones, quelqu'un qui nous a écrit pour dire « Je suis Nouvelle Vie », de Singapour, de Roumanie, de Moldavie et d'Ukraine. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à la communauté en ligne? Et si tu es en ligne ce matin, écris-nous, va dans le chat et écris-nous d'où tu nous regardes ce matin. Dans notre série « Les prières de la Bible », nous regardons ce matin une prière, la prière qui protège nos cœurs. La prière qui protège nos cœurs. La Bible entière nous appelle, la Bible entière nous appelle à protéger nos cœurs. Le Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Parce que de lui viennent toutes les sources de la vie. Et nous savons que c'est vrai. Notre foi, nos pensées, nos paroles, nos attitudes, nos décisions, nos valeurs, nos convictions, nos priorités, nos choix, tout au long de 2023, nos passions, nos poursuites, nos mariages, nos familles, nos amitiés, notre relation avec Dieu, notre relation avec son appel sur notre vie, avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre monde, tout dépend, tout est une affaire de cœur. De l'abondance du cœur, ton cœur va déterminer quelle sorte d'année 2023 tu vas avoir. Alors la question c'est, est-ce que tu gardes ton cœur? Est-ce que tu t'arrêtes pour dire comment va mon cœur spirituellement? Est-ce que tu as cette « sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur » Parce que la Bible enseigne aussi que ce n'est pas facile de garder nos cœurs. Ce n'est pas une mince tâche de protéger nos cœurs. On doit être alerte pour le faire. Parce que Jérémie 17, 9 et 10 nous dit, le cœur, et ça aussi on peut le témoigner, le cœur est tortueux par-dessus toute chose. Il est capable du meilleur et du pire. Il est capable de méchanceté. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je mets le cœur à l'épreuve. Je sonde ses profondeurs pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Et ça aussi, nous savons que c'est vrai. Notre cœur peut se refroidir. Il peut se saisir, il peut devenir jaloux, il peut devenir envieux. Il peut s'endurcir, notre cœur peut être tenté. Notre cœur peut nous tromper vers des relations, vers des décisions qui vont être toxiques. Notre cœur peut être offensé, il peut être brisé, il peut se fermer. Notre cœur peut nous mentir, nous conduire vers de mauvaises directions. Il peut être souillé, notre cœur peut être aveugle. Nous savons que c'est vrai. Le cœur, comme le texte qu'on vient de lire, le cœur produit des voies, des façons d'agir. Notre cœur produit des voies et produit des œuvres qui produisent des voies et qui produisent des fruits. Mon cœur produit des voies qui deviennent des œuvres et qui produisent un fruit, le fruit de ma vie. Un fruit parfois qui peut être agréable à Dieu, selon mon cœur, ou être amer. Des fruits de progrès ou des fruits où je vais de perte. Des fruits qui bâtissent ou des fruits qui brisent, des fruits de destinée ou des fruits de destruction. Alors la question, c'est comment protéger notre cœur et avoir une année hashtag MAV. 2023, hashtag meilleure année à vie. C'est notre poursuite en ce début d'année, depuis chaque message, depuis le début de l'année, sur tous les sites. Je suis allé sur un de nos sites, je vais visiter les sites cette année. Et tout ce qu'on fait à Nouvelle Vie, toute l'équipe pastorale, tous les événements, toutes les réunions, toutes les prédications, toutes les séries, tout ce que nous faisons est dans un seul but, c'est que tu puisses vivre, que 2023 puisse être hashtag une année MAV, meilleure année à vie. Asseyez-vous avec moi, dites-le à voix haute avec moi, MAV, meilleure année à vie. Il y en a qui l'ont dit, mais j'entends d'autres qui disent, Pasteur Claude, comment est-ce que tu peux dire ça? Comment est-ce que tu peux dire ça, 2023, meilleure année à vie? Récession, inflation, conflits sociaux, division dans notre société, des guerres qui sont au-dessus de nous. Puis en plus de ça, tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Tu n'as pas d'idée de ce qui arrive dans ma vie. Quand je regarde mon début d'année, les affaires qui se passent dans ma vie, que 2023, humainement, est bien loin d'être mave, bien loin d'être lancé comme étant la meilleure année à vie. Je sais, tu as ton début d'année, je suis sensible à ça. Et crois-moi, j'ai le mien aussi. Mais nous ne contrôlons pas toutes nos circonstances, combats et conditions extérieures, mais je peux faire des choix de cœur. Je peux faire des choix de cœur. Je ne peux pas ignorer ou être en déni de la réalité, de problèmes, de pression, de peine, de perte, de ce qui prend place dans ma vie, mais je peux choisir de prier. Je peux choisir à chaque jour d'aller chercher sa paix. Je peux choisir d'aller m'abreuver de sa puissance, de sa paix. Je peux prier à chaque jour pour protéger mon cœur, parce que de mon cœur va découler tous les enjeux de la vie. Lorsqu'on regarde dans Matthieu chapitre 6, c'est l'enseignement suprême de Jésus sur la prière. Dans Matthieu 6, vous avez le Notre Père, vous avez le chapitre A. Les premiers 18 versets sont sur la prière. Au verset 6, on y retrouve « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Combien savent que Dieu voit chacune de tes prières dans le lieu secret et qu'il répond. » Quelqu'un devrait dire « Amen ». Matthieu 6, 1 à 18, le Seigneur présente la prière en trois volets. Il dit là, lorsque tu pratiques la justice, lorsque tu jeûnes et lorsque tu pries. Quand tu donnes, quand tu jeûnes et quand tu pries. La vie chrétienne normale selon Christ. Ce n'est pas si tu jeûnes ou si tu donnes ou si tu pries ou un des trois, ce n'est pas un buffet. Quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu donnes. Le plan de prière du Notre Père, le fondement de l'enseignement en entier, vous le dites, chapitre, il y a tous les avertissements qui vont avec. Tu ne pries pas, tu ne donnes pas, tu ne jeûnes pas pour être vu. Ou comme les hypocritesses, qui faisaient ceux qui portent un masque, ceux qui font semblant d'être une chose qu'ils ne sont pas. Tu ne le fais pas avec de vaines répétitions. Tu ne le fais pas sans le pardon, comme Dieu nous a pardonné. Et tu ne pries pas sans la générosité. Prière et générosité ensemble. Parce que c'est la pratique de la prière et de la générosité en continu, en binôme, avec persévérance et passion, qui vraiment protège nos cœurs. Matthieu 6, 1 à 18, c'est sur la prière, c'est prière. Verset 18, ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Et là, après ça, tu as la générosité. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, des trésors éternels, où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dites à voix haute avec moi. Là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Ce côté-ci maintenant. Là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Pasteur Claude, tu n'es pas correct. Tu nous as invités ici dans le froid en nous promettant un message sur la prière qui protège nos cœurs. Tu viens de faire un tournant vers la générosité. Faites votre plainte à Jésus. C'est ce que Jésus vient de faire. Prière, générosité, ensemble. Quand tu donnes, quand tu pries, quand tu jeûnes. Jésus accomplissait l'enseignement de la Bible entière. La représentation parfaite du cœur du Père qui a donné cette révélation du premier au dernier verset de la Bible. Une vie de prière et une vie généreuse sont les deux clés absolues pour protéger ton cœur et vivre avec la main, la faveur, la bénédiction, la provision de Dieu sur ta vie. C'est le secret de nouvelle vie depuis 30 ans. Mais c'est aussi le secret de chrétiens de toutes les époques, de millénaires, partout dans le monde, en 2023 et jusqu'à la fin. En fait, l'équation, c'est prière plus générosité égale mave. Prière de générosité égale meilleure année à vie. J'ai prêché dans 50 pays du monde. Ça fait 40 ans que je marche avec Dieu. De tout mon cœur, je vous dis ceci. Montrez-moi. Où que ce soit, à travers toutes les cultures et les époques, montre-moi quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu, qui garde un cœur pour Dieu. Montre-moi une église, un ministère, une personne, une famille, un entrepreneur qui a un cœur pour Dieu et qui a la bénédiction pour Dieu. Et je vais te montrer quelqu'un qui est en prière avec une vie de prière et une vie de générosité. Dites amen, même si ça fait mal un petit peu. C'est très, très important parce que la Bible enseigne que les prières sans la générosité, ne protège pas nos cœurs. et n'ouvrent pas le ciel sur nos vies. Jésus a dit, enseigne que lorsque tu pries, amasse-toi des trésors dans le ciel. Car là où tu mets ton trésor, c'est là que ton cœur va. Tu protèges ton cœur, tu diriges ton cœur vers le royaume de Dieu lorsque tu donnes. Dieu dit, les prières religieuses et rituelles qui demandent ma gloire et ma bénédiction à l'intérieur de ma maison, qui sont sans une réponse de générosité pour les besoins du monde à l'extérieur de ma maison, ne sont ni selon mon cœur, sont pas selon mon cœur, sont pas selon mes commandements, ne sont pas selon ma parole. En Ésaïe chapitre 58, 1 à 4, regardez comment Dieu décrit la prière sans générosité. Crie à plein gosier, il dit ça à Ésaïe. Ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Pourtant, tous les jours, ils prient. Ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Ils agissent comme s'ils étaient une nation qui aurait pratiqué la justice, qui n'aurait pas abandonné la loi de Dieu. Prière sans générosité pour Dieu, t'as abandonné ma loi. Ils me demandent des interventions, des exaucements. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils sont troublés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils disent, que nous sert, pourquoi est-ce qu'on prie et il n'y a pas de cette réponse? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y prends pas égard. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il lui répond, voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement les plus démunis. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et quereller. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue d'en haut. Il y a un portrait qui est là d'un peuple qui prie et qui prie et qui prie. Et Dieu dit, annonce-leur leurs péchés. Ils ne me craignent plus, ils sont éloignés de moi. Ils agissent comme s'ils pratiquaient la justice alors qu'ils ne la pratiquent pas. Ils ont essayé de séparer ce qui est l'inséparable dans le cœur de Dieu. La prière et la générosité, la communion avec lui ne peut pas être séparée de la compassion pour ceux qui ont besoin de lui. Et ils se demandaient qu'est-ce qui se passe. Croyez-moi, vous qui regardez en ligne et ici à Nouvelle-Vie, partout à travers le Québec, la francophonie, il y a un cri silencieux dans le cœur de, j'ose dire, dizaines de milliers de chrétiens, centaines d'églises. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on est en stagnation? On a la tête dans une chaise puis on prie. Comment ça se fait qu'il ne se passe pas quelque chose? Il y a quelqu'un qui est dans notre équipe qui était dans un grand congrès récemment où il y avait cet esprit de « Ah, oh, c'était tellement mieux auparavant, c'était tellement mieux il y a des années. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe rien au Québec, c'est difficile au Québec. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas. Il y a même un portrait. Le Seigneur dit, il y a toute cette prière qui se fait dans le conflit, dans le déchirement, dans les débats stériles et inutiles. La pandémie a amplifié ça. Des milliers de chrétiens à qui Dieu demande « Qu'est-ce que tu as fait pour mon royaume pendant la pandémie et depuis? Qu'est-ce que tu as donné pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu as contribué? Qu'est-ce que tu as bâti pour le royaume de Dieu? » La générosité plus la prière égale meilleure année à vie. Il y a plus de 1000 versets dans la Bible où Dieu dit « Dans la mesure où tu vas refléter mon cœur de générosité en action, tu vas recevoir. » Tu vas gagner, tu vas grandir, tu vas guérir, tu vas te glorifier. Le Seigneur dit, regardez, ça c'est la prière sans la générosité, le même passage. Ésaïe 58, regardez bien, lorsque la prière est accompagnée de la générosité. Verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors! La lumière poindra comme l'aurore. La guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu m'appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. La prière, tout ce qui prend place, le verset qui est là, c'est ce que nous poursuivons. C'est ce que nous poursuivons depuis 30 ans. L'engagement qui produit l'exaucement. Le sacrifice de chacun qui produit le surnaturel. Le partage de mes biens qui produit sa proximité, qui produit sa bénédiction. Partage ton pain à travers l'organisme Action Nouvelle Vie que vous soutenez maintenant. 15 000 personnes par mois qui reçoivent de l'aide alimentaire. Fais entrer dans ta maison les malheureux, que ce soit au 2159, dans nos orphelinats, nos églises en Haïti, les convois en Ukraine, un cœur pour les autres. Ne te détourne pas de ton semblable ici dans la ville, dans les Premières Nations, à chaque endroit où le cœur voit un besoin. Et Dieu dit, si tu fais ça, si tu ramasse des trésors dans les cieux, ma main va être là, tu vas dire éternel et je vais dire me voici. Et quelles que soient les circonstances, tu peux vivre une année aimable. Vous devriez risquer un amen si vous savez que c'est vrai. Ouais, pasteur, là, prends ton gaz égal. Jusqu'à quel point c'est si important que ça? Là? Jusqu'à quel point c'est important? Prière, générosité égale également. Dieu dit, depuis des millénaires, vous ignorez ou méprisez ce qui est suprême importance pour moi. Vous avez oublié ou choisi de ne pas obéir à mes ordonnances. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, le mot « ordonnance », c'est des principes de comportement normaux et attendus. C'est ça que je m'attends de vous. C'est ce que je m'attends de ceux qui portent mon nom. À quel point c'est important pour Dieu? Malachie 3, 5 à 7. « Je m'approcherai de vous pour le jugement contre ceux qui pratiquent la sorcellerie, les adultères, les menteurs et ceux qui jurent faussement. » Ça, c'est les tops dans la liste de ce qu'on voit comme étant les péchés terribles. « Je m'approcherai de vous pour le jugement contre ceux qui retiennent l'aide aux plus pauvres, qui négligent la veuve, l'orphelin, l'étranger. » Le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger, c'est les quatre priorités de Dieu à travers toute la parole de Dieu. Ah, finalement, vous qui avez négligé, vous avez retenu l'aide et vous ne me craignez pas. Vous dites, vous avez une crainte de Dieu, mais vous n'avez pas de crainte de l'Éternel. Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, je ne change pas. Vous vous êtes écarté de mes ordonnances, vous n'avez pas pratiqué, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas le message d'un homme, ce n'est pas une prédication d'un pasteur. Sept fois dans le texte, Dieu va dire, c'est moi qui parle, c'est l'Éternel des armées qui vous parle. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et Jésus a dit, lorsque tu pries, ton Père te voit dans le lieu secret, et lorsque tu amasses des trésors, lorsque tu es généreux pour des trésors éternels, ces trésors-là, rien ni personne ne peut te les voler. Lorsque tu sèmes au royaume de Dieu, tes trésors ne sont pas dépendants ou soumis aux fluctuations de la terre, parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Alors, la suite de Malachie, c'est là qu'il dit, « Apportez donc à la maison du trésor. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La maison du trésor qui est l'Église maintenant. Toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance pour vous, je vais repousser tout ce qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. » C'est quand même très significatif que c'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve. » C'est à quel point ça peut être difficile pour nous de donner, à quel point notre sécurité, notre sens, notre identité peut être là-dedans, à quel point c'est difficile de lui faire confiance. Mettez-moi à l'épreuve. En québécois, essaye-moi à voir. Mets-moi à l'épreuve et vois si je mets ma parole là-dessus, je mets ma fidélité là-dessus. Je suis le Dieu qui ne change pas. Vois comment j'ouvrirai les écluses des cieux à travers récession, à travers inflation et tout le reste. Je répandrai ma bénédiction, je repousserai les ennemis et je te multiplierai. Quelqu'un devrait dire amen. C'est pour ça que nous avons tout traversé depuis 30 ans à Nouvelle Vie, avec sa bénédiction. Avec sa provision, avec sa croissance miraculeuse, parce qu'à travers toutes les années, l'Église donne massivement et de manière extravagante. Alors qu'à nos débuts, au début de 1993 à aujourd'hui, c'était quelques dizaines de personnes qui venaient porter à la maison du trésor une portion de leur trésor avec prière et générosité, qui sont devenues des centaines et qui sont devenues des milliers maintenant. C'est toujours une question de cœur entre toi et Dieu. La générosité, ce n'est pas une question de cash, c'est une question de cœur. C'est une affaire de cœur entre toi et Dieu. À Nouvelle-Vie, la générosité et la justice ne sont pas un département. C'est la décision de sacrifice, de foi et d'obéissance de tout un peuple, une personne à la fois, année après année. Maintenant, on est en 2023, qui a non seulement, c'est cette générosité-là qui a non seulement prière et générosité déployée et développée notre destinée. C'est ça qui va déterminer notre futur. Qu'est-ce qu'on va accomplir ensemble? Mais c'est aussi ce qui te permet à toi, à chacun d'entre nous, de réellement discerner et déterminer l'état spirituel de notre cœur. Parce que Jésus enseigne que la générosité révèle nos cœurs. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'en fait, si tu veux faire un audit, un examen, pour vraiment déterminer où tu en es vraiment dans ton cœur, regarde où et à quoi ou à qui tu donnes. Parce que c'est là que ton cœur est réellement. Et l'apôtre Paul, dans son deuxième épître aux Corinthiens, il l'applique d'une manière hyper pratique. La même pensée que Jésus, que la générosité me dit à moi-même, Mon cœur voudrait me tromper, voudrait me faire prétendre à moi-même quel est l'état de ma relation avec Dieu. Mais là où je donne, là où je mets mon trésor, révèle mon cœur. La générosité révèle nos cœurs. Paul enseigne dans ce deuxième épître aux Corinthiens et tout le chapitre 8 et 9, c'est une offrande. C'était particulier parce qu'il recueillait des offrandes auprès de gens en difficulté eux-mêmes pour des gens encore plus en difficulté. Des gens en récession pour des gens qui, eux, crevaient de faim. C'est ce qui se passe dans 2 Corinthiens 8 et 9. Et là, il dira de même, l'apôtre Paul dira que lorsque la doctrine de la grâce est authentique, elle va toujours provoquer des décisions de générosité actualisées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'avais travaillé super fort pour cette phrase-là. Je n'ai même pas eu un demi-amen, même pas de la première rangée. La première rangée m'a laissé complètement tout seul. Non, c'est pas grave, je vais continuer un petit bout tout seul. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 7 et 8. « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, dans votre amour pour nous, faites en sorte aussi d'exceller dans cette œuvre de générosité. » Bien faire ces offrandes qui étaient prises de gens qui étaient dans le besoin pour des gens qui étaient encore plus dans le besoin. Et je ne dis pas cela pour vous donner un ordre. Rien. Personne n'est obligé, ce n'est pas par l'égalisme, mais pour éprouver, pour mettre à l'épreuve, par le zèle des autres. Il y a plein de gens autour de vous depuis des années qui le font, et c'est pour ça que tu peux être ici, c'est pour ça que tu peux bénéficier de tout ce qui est là, afin d'éprouver, mettre à l'épreuve, par le zèle des autres, la sincérité de ton amour. Alors, c'est la question à tous ceux qui disent, « Moi, ça va bien avec Dieu, connaissance, la parole, la foi, je crois en Dieu, j'aime Dieu, j'ai de l'amour dans mon cœur, et tout ça. » L'apôtre Paul dit, est-ce que tu excelles, c'est une bonne question, est-ce que tu excelles en générosité? Est-ce que je peux dire, mes offrandes sont, merci Seigneur, mes offrandes sont excellentes, sont en croissance, je donne plus, je donne avec sacrifice, je donne avec plus de joie. Je dis amen plus fort lorsque Pasteur Claude prêche sur la générosité. Puis continue, c'est tellement terre à terre, c'est tellement comme nous. 2 Corinthiens 8, car ce message est pour vous, qui avez commencé à donner, qui avez eu la volonté l'année dernière. Agissez donc maintenant, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à bien vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est authentique et agréable à Dieu en raison de ce qu'elle a à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donnez donc à la face des églises la preuve de votre amour. Wow! Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Corinthiens vivaient la même chose que nous l'année passée. Je m'étais dit au début de l'année, oui, c'est vrai, je vais commencer ou je vais recommencer. L'année passée, vous aviez plein de bonnes dispositions et les choses sont arrivées en chemin. Qu'est-ce que tu veux? La bonne volonté devant Dieu, le cœur devant Dieu qui est agréable. Donne avec ce que tu as maintenant, avec le peu que tu peux avoir maintenant, parce que la puissance de ce passage-là, de ce principe-là, c'est que là où tu mets ton trésor, là aussi sera ton cœur. La générosité, c'est vrai qu'elle révèle mon vrai cœur, mais aussi, elle rapproche mon cœur. Que lorsque tu donnes au royaume de Dieu, tu rapproches ton cœur du royaume de Dieu. Tu prends partie, j'ai investi. Si tu veux savoir, si tu veux rapprocher ton cœur de quelque chose, tu investis. Moi, je ne suis pas du tout un amateur de voitures. Il y en a qui sont des fous des voitures. Mais moi, j'ai une bonne voiture. Bien, je l'ai depuis 10 ans, puis j'espère l'avoir pour 15 ans. Mon objectif, c'est de la garder 15 ans. J'ai une bonne voiture, mais j'espère l'avoir pour encore un autre 5 ans. Et cette voiture-là, je l'ai payée, j'ai investi. Et souvent, les gens disent, « Ouais, elle est bien propre, ta voiture. » Oui, oui, j'en prends soin. Je m'y investis à me coûter toutes ces années-là de paiement, etc., etc. Ma première voiture, quand je suis devenu nouveau chrétien, il y a un monsieur de l'église qui m'a donné une voiture. Formidable. Mais c'était comme un Pontiac Le Mans qui avait 15 ans à l'époque déjà, un gros bateau, plein de bosses. Il y avait de la rouille sur les bosses et des bosses sur la rouille. Mais c'était un don de Dieu. Je voyageais, je me promenais avec ça. Puis un jour, je revenais de... Il ne m'avait rien coûté. Un jour, je revenais de prêcher un vendredi soir, puis il y avait des payages sur l'autoroute à ce moment-là. Je viens de finir de prêcher, et puis j'arrive sur au payage. Il y avait des autos devant moi. Je me mets en attente, et je regarde dans mon miroir. Il y a un auto qui s'en vient à pleine vitesse, m'a foncé dedans. Ça en vient à pleine vitesse pour me rentrer dedans. Je suis même pas nerveux. Je mets le pied sur le frein, j'attends. Boum! Ça frappe et tout. Oh, je sors de l'auto. Le monsieur, je m'excuse. Pff, don't worry about it. Ça n'avait rien coûté. Aucun investissement. Pas d'attachement. J'ai pas d'attachement. Dans ces mêmes périodes-là, j'ai commencé à donner. J'ai entendu un message comme ce matin, mais un message sur la dîme. Et j'ai été touché, j'avais mon premier emploi comme jeune chrétien, 17-18 ans, et je gagnais 156 $ par semaine. Alors, j'ai décidé de donner 20 $ par semaine. C'était immense pour moi. Ça faisait 80 piastres, ça fait 800 piastres, ça fait l'année. C'est beaucoup, là. Ça se fait longtemps, là. Vous savez comment je suis vieux? C'était dans le temps de l'apôtre Paul, ça. C'est vraiment... Et j'étais fier, j'ai donné, puis je faisais mal, mais Seigneur, je donne, puis tu vas me bénir, et tu vois. Et là, j'ai eu une direction du Seigneur vraiment de m'inscrire. J'étais accepté pour aller aux États-Unis avec le pasteur Mark, les deux jeunes gars, pour partir pour aller en formation au collège biblique. Et lorsque j'ai eu la liste des règlements, le cœur m'a arrêté. Il fallait porter chemise, veston, cravate à tous les jours. Je n'avais jamais porté de cravate de ma vie. Lorsque je l'ai mis, j'ai dit, j'ai une anomalie dans mon cou parce que je pense que je vais mourir. Et je me suis habitué un peu à la cravate, mais je n'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Je n'avais pas d'argent. Alors finalement, il y a encore une fois, quelqu'un m'avait donné un veston qui n'était pas beau, qui était laid. Mais j'ai ramassé un peu d'argent, puis je me suis assis à acheter un veston que moi, jamais. C'est mon veston. Puis je me disais, 7 jours par semaine, je vais mettre le beau 5 jours, puis le laid 2 jours. En tout cas, on va m'arranger. Un dimanche matin, j'étais assis comme vous dans l'église, puis un missionnaire qui commence à prêcher, et il était habillé, son veston était pire que mon veston laid. Et quand il s'est mis à prêcher, c'était tellement beau qu'est-ce qu'il faisait, il y a une pensée qui est venue sur mon cœur. Moi, j'entends pas de voix audible, je suis nouveau, j'entends pas la voix de Dieu audiblement, mais il y a quelque chose dans mon cœur qui dit, donne-lui ton veston. Veston, j'ai juste deux vestons. Vous savez que tu peux être en train, il y en a qui sont en train de le faire en ce moment, tu peux être dans l'église, en train d'avoir l'air d'écouter, mais tout un combat qui se passe dans ta tête. Là, moi, j'étais en conversation avec Dieu dans ma tête, mais voyons donc, j'ai juste deux vestons, si j'en donne un, on m'en restait un. Ils vont dire, c'est qui ce gars-là qui porte le même veston, c'est Joe Semaine. Puis là, tout ce temps-là, je disais, Seigneur, je ne suis pas pour lui donner mon veston lait, Et là, la pensée m'est venue, non, donne-y ton beau veston. Oh, un autre demi-heure, là, parce que ça me prêchait longtemps. Un autre demi-heure. Le beau, ah! Oh! Et celui qui était mon mentor, celui qui m'aidait dans ma foi, m'avait enseigné, puis tu donnes. Quand tu donnes, il ne faut pas que tu sois vu. Fait que la pensée m'est venue, je vais lui donner mon beau veston, mais je vais le mettre dans une enveloppe pour qu'il ne sache même pas que c'est moi qui l'ai donné. Fait que là, j'ai donné mon veston à tes réunions. Le lundi soir, j'arrive à l'église, il portait mon beau veston neuf, il était super fier. Puis moi, les semaines approchaient, je m'en vais au collège biblique avec mon veston laid, genre là, d'un vrai fou. 3 ou 4 jours avant que je parte pour le collège biblique, ma mère, à son patron, ma mère était comptable, son patron, M. Rich de Montréal, un président de la compagnie, « Hey, ton gars s'en va aux États-Unis, aurais-tu besoin de linge, de vêtements? » Je ne sais pas, m'a l'appelé. « Hey, Claude, aurais-tu besoin de vêtements? » »« Ben oui, ben, il va t'envoyer quelque chose. » Ça sonne à mon petit appart, il y a un monsieur qui arrive, un des employés qui arrive, avec des racks de complet. Attendez. Complet, cravate, ceinture, souliers, Calvin Klein. Tout me parfaitement, aucune altération, longueur parfaite. J'avais pas une scène, but I look good. Je suis arrivé. Je suis en train de vous dire, va avec ce que tu as aujourd'hui et laisse Dieu le multiplier. Quelqu'un devrait dire amen. Je sais que c'est le cœur sincère de tellement d'entre vous de dire, Seigneur, je veux apprendre à protéger mon cœur. Je veux que mon cœur reste proche de toi. Je sais que mon cœur peut dévier, peut s'éteindre. Alors, Seigneur, en 2023, comment protéger mon cœur? Comment prier pour rapprocher mon cœur du royaume? Il y a plusieurs prières magnifiques et puissantes dans la Bible. Pour celui ou celle qui est sérieux et sincère à protéger son cœur, en voici une qui peut non seulement changer ton année 2023, mais peut changer le cours de ta vie. Je ne vais pas la prêcher point par point par point. On va juste la prier ensemble. Je vais simplement la partager. C'est une prière que moi, je prie depuis des années et je crois qu'elle a grandement contribué à garder mon cœur passionné, à garder mon cœur proche de Dieu, à avoir sa bénédiction, mais surtout à garder mon cœur devant lui. Elle est tirée du Deutéronome. Et c'est très important parce que le Deutéronome, c'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. Jésus, le message de Jésus est saturé de ces passages-là du Deutéronome. Et très, très important parce que lorsqu'on parle de protéger nos cœurs, lorsque Jésus a été tenté par Satan lui-même, lorsque Satan lui-même veut lui faire perdre son cœur, sa destinée, son appel, Jésus a prié le Deutéronome, a répondu avec le Deutéronome. Alors, voici la prière pour ceux qui sincèrement disent « Je veux protéger mon cœur dans cette prochaine année, pour une année meilleure année à vie. Je prie que mon cœur ne refuse jamais avec un œil sans pitié. » Deutéronome 15, c'est juste Deutéronome 15, quelques versets qui se suivent. Deutéronome 15, 7 à 9. « S'il y a chez toi quelques personnes démunies d'entre tes frères dans l'une de tes portes, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur. » Tu ne fermeras pas ta main devant ton frère dans le besoin. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent ou dans le besoin de lui faire un refus, il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. C'est une dynamique immuable de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de l'Esprit dans le cœur d'un croyant. Le cœur, l'œil, la main. Le cœur, l'œil, la main. L'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre et qui donne la passion de Dieu dans ton cœur. La perspective de Dieu où tu es sensible aux besoins et tu n'as pas un œil sans pitié. Tu vois les besoins et ta participation, ma part, la participation de Dieu. Le cœur, l'œil et la main. C'est l'amour de Dieu. Lorsque le cœur s'endurcit et s'éloigne de celui du Père, l'œil devient sans pitié. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir des chrétiens qui passent leur vie entière sans être touchés par quoi que ce soit qu'il y a autour d'eux. L'Église, on peut mentionner tout ce qui est fait, tous les besoins. Et si le cœur se dessèche, l'œil ne voit plus et la main reste fermée. Le cœur, l'œil, la main. C'est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous permettra d'accomplir le rêve de Dieu pour son corps, pour son Église sur la terre. Dieu avait une image. Lorsqu'on pense, nous, à l'Église, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui ont une image de chrétiens qui se réunissent entre eux, les portes fermées pour se faire du bien, qui sont complètement déconnectés des besoins de l'extérieur. Mais ce n'est pas bibliquement l'image du corps de Christ. Dieu veut son corps sur la terre qui est une représentation de son cœur à lui. Et dans la pensée de Dieu, alors qu'on arrive à la fin des temps, plus qu'à aucune autre époque, où une fin des temps avec une société d'injustice, de matérialisme sauvage, de capitalisme, d'égocentrisme absolu. Voici le portrait dans le même texte de Deutéronome 14-29. Voici ce que Dieu voit pour son Église. « Alors viendront le pauvre, la veuve et l'orphelin et les migrants seront dans ses portes. Ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toutes les entreprises de tes mains. » Littéralement, seriez-vous prêts? Je vous défie à prier avec moi pour l'année 2023. « Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mes yeux et ouvre ma main et le ciel va s'ouvrir. Ouvre mon cœur, ouvre mes yeux, ouvre ma main et le ciel va s'ouvrir. » Vous pouvez vous dire « Amen » C'est une nouvelle vie, c'est 30 ans. C'est 30 ans de nouvelle vie en un verset. Celui qui a l'œil, le Proverbe 22:9, l'homme dont, la femme dont le regard est généreux ou bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux plus pauvres. C'est comme ça que tout se fait à la nouvelle vie. C'est comme ça que tout va se faire jusqu'au retour du Seigneur. Le Saint-Esprit qui touche les cœurs. La première année, on a commencé au mois d'août 1993, de 1993 à 2023. Au mois d'août 93, commencé, et le premier Noël, on l'a fait pendant quelques années, mais le premier Noël, on a fait un banquet. C'est super. On a fait un banquet pour des gens qui étaient dans la difficulté, des gens, et on a préparé un super souper pour eux. On était à la boucle noire et la chemise, et on a fait la chorale à chanter. On a fait un banquet. Je me souviens, j'ai regardé le banquet, puis je trouvais ça formidable. Puis, il y a des personnes qui avaient bénéficié du banquet, des cadeaux pour les enfants, qui sont approchés, puis ont dit, c'est beau, c'est magnifique, c'est beau, qu'est-ce que vous faites là, le banquet, mais c'est au mois de janvier qu'on en aurait vraiment encore plus besoin. Parce qu'en janvier, c'est vraiment tough, là. Alors, la notion que le banquet, c'était bien, peut-être qu'on en fera d'autres même, mais d'une banque alimentaire, année après année, semaine après semaine. Maintenant, 15 000 personnes par mois, 20 millions par année qui est distribué. Le cœur qui est touché, l'œil qui voit tout ce qu'on fait. C'est l'œil qui voit des mamans, des jeunes filles qui nous annoncent, qui viennent dans le banque alimentaire, qui nous annoncent qu'elles sont enceintes, puis un programme qui s'appelle Bon Départ pour aider la maman lorsqu'elle va garder son bébé dans son avenir. C'est un programme qui s'appelle Traduire l'espoir, lorsqu'on voit les immigrants arriver maintenant, des traducteurs en hispanophone. Maintenant, il y a une aide, il y a un soutien. Et savez-vous que Nueva Vida est née à partir de gens hispanophones qui ont commencé à venir à la banque alimentaire et maintenant à l'Église? Nueva Vida qui fait un travail extraordinaire d'accueil auprès. C'est toujours la même chose. Le cœur est touché et là, tu es sensible, tu vois un besoin. Il y a des jeunes à Longueuil, ça n'a pas de sens, dans notre ville, qui sont des mineurs abandonnés, itinérants, victimes des proxénètes suicidaires. Ça prend une place, ça prend une adresse où il y a un espoir. C'est comme ça que la jeunesse d'Action Nouvelle Vie, le 21-59. C'est la même chose en Haïti, c'est la même chose en droit. Le cœur, les yeux et la main ensemble. Et nous devenons le cœur, les yeux et la main de Dieu. Et lorsque j'ouvre mon cœur, j'ouvre les yeux, j'ouvre la main, Dieu lui ouvre le ciel. Oh, vous devriez applaudir plus que ça, c'est le cœur de Dieu. Alors, on le prie. Alors, on le prie, Seigneur. Moi, je prie ça tellement souvent, après tant d'années. Seigneur, je prie que mon cœur ne refuse jamais avec un œil sans pitié et je prie que mon cœur ne se refroidisse jamais. Que mon cœur ne se refroidisse jamais. Comprenez bien, hein, vous qui êtes en ligne ici. J'ai la responsabilité, moi, devant Dieu. Celui qui prêche a une charge plus grande, a des responsabilités plus grandes, va être jugé plus sévèrement. Moi, j'ai une responsabilité devant Dieu, non seulement de vous prêcher ce qui est le cœur et la parole de Dieu, mais j'ai la responsabilité non seulement du message, mais dans ma propre vie privée, quand personne ne me regarde, j'ai la responsabilité d'être un modèle dans le lieu secret devant Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'avec toute une absolue imperfection, parce que je suis quelqu'un d'absolument imparfait, mais je pense que je peux dire, avec crainte et tremblement, que depuis 40 ans, moi, je cherche à être un homme de prière et un homme généreux. Une vie. Je suis pas seulement généreux avec l'argent, généreux de mon temps, généreux de mon amour, généreux de mon soutien, généreux de mon pardon, généreux d'un cœur généreux que Dieu va bénir. Et je prie, alors que ça fait 40 ans que je marche avec Dieu, je prie que mon cœur ne se refroidisse pas. Verset 11, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent. C'est une vérité biblique et historique, excessivement importante. Il y aura toujours des personnes dans le besoin. Jusqu'au retour de Jésus qu'on va avoir à aider, à soutenir, à nourrir, à vêtir, à couvrir, à secourir. Et je prie que mon cœur ne se refroidisse pas, parce que c'est dans notre nature humaine. Pas que nos cœurs soient... Beaucoup de chrétiens, ce n'est pas que ton cœur est complètement endurci, mais il s'est éloigné, il s'est endormi, il s'est éteint dans la générosité passionnée. Ce n'est pas que tu as rejeté le concept de générosité, c'est que tu t'es refroidi dans ton cœur de générosité. Dieu dit, c'est vraiment même la différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne le connaît pas. Hors de l'Esprit de Dieu qui renouvelle nos cœurs, les gens sont changeants, sont touchés par quelque chose, donnent pour un bout, après ça ils lâchent. Donnent à une cause, ça n'a pas l'air de changer, on arrête. Sont cancellant leur engagement et très, très volages dans leur engagement. Dans Malachie chapitre 3, le Seigneur dit, c'est la différence entre l'absolu et marquante selon Dieu, entre le non-croyant et le chrétien habité de son esprit, qui est appelé à être une incarnation de Dieu qui n'arrête jamais de donner. Combien sont reconnaissants que Dieu n'arrête jamais de donner, n'arrête jamais de pardonner, que son cœur envers nous ne se refroidit jamais. Tu devrais applaudir pour la grâce de Dieu qui ne se refroidit jamais envers toi. Alors, dans un contexte que je vous ai lu un peu plus tôt, des prières sans générosité qui ne sont pas acceptées devant Dieu, et si tu amènes à la maison du trésor, dis mes offrandes, prière et générosité, je vais déverser les écluses des cieux sur toi, mets-moi à l'épreuve, je vais repousser tous tes ennemis, continue, et c'est exactement ce qui prend place aujourd'hui parce qu'il dit, je suis le Dieu qui ne change pas. Malachie 3, 16 et 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et toi et ton épouse peut-être, toi, ta famille qui s'en va à la maison après ce message ce matin puis qui dit, qu'est-ce qu'on va faire en 2023? Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta. Et un livre du souvenir fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, c'est entièrement, uniquement, aucune erreur possible dans un contexte de générosité, d'appel à générosité. Il y a un livre que Dieu a écrit, il attend ta réponse. Il y a un livre de bénédiction, un livre d'accomplissement, un livre de faveur qu'il attend d'écrire pour ceux qui vont répondre. Pour ceux qui vont donner, pour ceux qui vont lui faire confiance. Regardez comment il en parle. Ils seront à moi, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous n'arrêtons pas de donner avec un cœur extravagant de générosité parce que Dieu n'arrête jamais d'être extravagant dans son domaine. Ouais, mais, hey, Pasteur Claude, là, écoute, là, les gens m'écrivent ça. Ça fait 30 ans là, qu'on donne à Haïti, là, puis le pays n'a pas changé. Notre mandat, notre appel n'est pas de faire une transformation géopolitique, n'est pas de changer la structure politico-économique et sociale d'une nation. Nous prions pour que Dieu élève des hommes et des femmes de droiture de justice. Mais notre appel est d'être les bras, les mains de Dieu et de faire une différence, une personne à la fois, une école à la fois, une église à la fois, un pensionnaire à la fois, une infirmerie à la fois, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Quand je regarde la photo qui va apparaître à l'écran de Pasteur Mark et de moi lorsqu'on était en visite là-bas, on faisait des conférences, puis on est allé C'était une des premières constructions à l'article. On est là avec Pasteur Wilson qui est là, partenaire depuis 30 ans. On est dans le trou là où ce que maintenant est un des dispensaires, la clinique, l'école qui est là-bas. Il y a quelque chose qui monte en moi. Et j'ai dit, Seigneur, ça vaut la peine, ça vaut le coup. Demandez à chaque enfant qui est aidé si ça vaut la peine. Demandez à chaque famille qui est nourrie. Demandez à chaque enfant qui a une éducation. Demandez à chaque jeune qui a passé au 21-59. Demandez à chaque famille qui a été sauvée dans un convoi en Ukraine. Demandez à Nueva Vida, parce que chaque église que nous implantons, c'est un investissement de centaines de milliers de dollars. Demandez à Nueva Vida si ça vaut la peine. Demandez aux âmes sauvées à la Prairie et à Châteauguay. Demandez à Drummondville si ça vaut la peine. Demandez à chaque personne qui reçoit une aide à chaque semaine si ça vaut la peine. Je dis aujourd'hui, Seigneur, que mon cœur ne se refroidisse pas. Il y aura toujours des besoins dans le pays, mais nous serons là jusqu'à la fin dans le pays pour être la représentation de qui tu es au nom de Jésus. Je prie que mon cœur ne refuse jamais avec un œil sans pitié. Je prie que mon cœur ne se refroidisse pas. La prière plus la générosité égale toujours hashtag MAV, meilleure année à vie. Et je prie pour que mon cœur reconnaisse toujours la source. Qui est la source de ma bénédiction? Verset 14, tu seras généreux envers les plus démunis avec des dons de ton menu bétail, de ton aire, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, par la bénédiction de l'Éternel? Comment est-ce qu'on applique ça de manière moderne? Il y a des mots là-dedans qu'on ne connaît pas bien. Est-ce que tu dis chaque fonction de ce qui est mentionné? Tu seras généreux envers les plus démunis avec ce que tu as accumulé, du bétail, avec tes investissements et économies, ton air, ce que tu gagnes présentement, ton pressoir, parce que tout ce que tu as eu, tout ce que tu as, tout ce que tu as eu, tout ce que tu auras, te vient de la main de Dieu. C'est lui qui t'a donné. C'est lui qui a tout, qui a tout permis. Ouais, mais moi, Pasteur Claude, on a travaillé fort et puis on a économisé, on a pris des investissements, puis on a travaillé fort, puis on a été sage. Absolument. Mais c'est lui qui te donne le souffle. C'est lui qui t'a donné la capacité. C'est lui qui t'a donné l'intelligence. C'est lui qui t'a donné la force. C'est lui qui t'a donné la santé. Dites amen à n'importe quel moment. C'est lui qui t'a mis dans une place, dans un endroit où tu peux fructifier. Pendant le soir, on était invité à souper par un couple. Dans le pastorat, un couple pastoral qu'on connaît depuis 40 ans, des grands amis. Puis un beau restaurant, wow, super beau souper. Fait qu'on s'assoit ensemble, puis t'es en train de souper. Puis, en tout cas, merci, je dis merci beaucoup de l'invitation. Il me regarde drôlement. Je dis merci de l'invitation, c'est super gentil de votre part. Bien, il dit, c'est toi qui nous as donné un carte cadeau. OK. T'es pas obligé de m'en donner, mais il l'avait reçu. Tout ce que tu as à donner, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce qu'on a à donner. C'est comme ça qu'il dit dans Corinthiens, le même texte sur la générosité. Une offrande, encore la même offrande dans 2 Corinthiens 9. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira, multipliera, augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards, toute espèce de libéralité par le moyen vous fera offrir à Dieu des actions de grâce. C'est lui qui fournit la semence et tu donnes et toute espèce de bénédiction, d'enrichissement, Dieu veut te bénir afin que tu puisses donner avec toute espèce de générosité. De ton temps, de ton bénévolat, de ton service, de tes talents, de tes ressources, de tes finances. Ce n'est jamais une question de chiffres, c'est toujours une question de cœur. Ce n'est jamais une question de pourcentage ou de déduction, c'est une question de passion pour Dieu. Si jamais une question de finance seulement, c'est une question de foi. Est-ce que tu as confiance en Dieu et est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Te confier des ressources et que, alors qu'il va te bénir, tu vas être un conduit pour bénir autour. C'est le moment de ce que j'appelle, c'est le moment de vous raconter ma célèbre leçon spirituelle et théologique des frites du McDonald's. C'est un peu troublant pour moi, c'est même parfois, ça, c'est comme, voyons donc. J'ai donné cette illustration-là quelques fois, et à chaque fois, des fois, je prépare ce message-là, j'ai préparé pendant 30 heures, je prépare des heures et des heures et des heures, toutes sortes de pensées bibliques sur la générosité, puis à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit, hey, là, l'affaire du McDo, là, ça m'a vraiment parlé, les frites au McDo. Alors, je vous raconte les frites au McDo. Je suis un papa, et mon fils était plus jeune. On revenait d'une pratique de hockey super tôt un samedi matin. On revient, il est comme 10h30 le matin. « Papa, on peut-tu arrêter au McDo? » On va arrêter au McDo. Alors, on arrête au service au volant. Et j'arrive là. Et même si 10h le matin, lui veut Big Mac, cheese et extra frites. C'est une espèce de baril de frites qu'il donnait, là, c'est une espèce d'affaire gros comme ça. Alors, il dit, vous, monsieur, non, moi, c'est correct, je ne prendrai rien. Alors, on part ensemble, mon fils est là dans toutes ses affaires, puis il y a le casseau de frites est aussi gros que sa tête, une espèce de casseau comme ça. Et moi, très normalement, je tends la main pour prendre une frite. Il fait, « Ah, c'est à moi! » Pardon? C'est tes frites, ça? Laisse-moi t'enseigner, mon fils. C'est moi et ta mère qui t'ont mis dans ce monde. Tout ton univers est à cause de moi. De tes chaussettes à tes bobettes, à ton hockey à 300$, et tes patins à, et ton ci, et ton ça, et l'auto dans lequel nous sommes, et chacune des frites qui sont là. À n'importe quel moment, je peux te retirer tes frites. Et à n'importe quel moment, je peux te couvrir de frites. Je suis le roi des frites. Toutes les frites du monde m'appartiennent, vous dire amen. Est-ce que vous savez que tout ce que tu as vient de Dieu? Lorsqu'on lui donne, on lui donne seulement de ce qu'il nous a donné. Quelqu'un devrait crier amen. Ça prend seulement une minute, je l'ai timé, 58 secondes. David, vers la fin de sa vie, l'automne de sa vie, alors qu'il appelle le peuple aux offrandes, à des offrandes pour le royaume de Dieu, pour bâtir la maison de Dieu, dira ceci. Laissez les paroles, c'est ma prière ce matin. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et il dit, « Béni sois-tu, c'est toi, c'est de toi que viennent la richesse, la gloire, c'est toi qui domines sur tout. » C'est dans ta main. Moi, je m'attendais, pendant que je le lis, j'avais écrit dans mes notes, les gens vont commencer à dire « Amen » tout au long de la lecture, c'est trop fort. Je recommence. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force, la puissance. C'est par ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous louons, nous te célébrons ton nom. Qui suis-je, moi? Et qui est ton peuple pour que nous puissions te faire volontairement des offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants, comme nos pères. Nos jours sur la terre sont comme de l'ombre. Hors de toi, il n'y a aucune espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes les richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, à Longueuil, à la Prairie, à Nueva Vida, et à Châteauguay, et à Drummondville, et partout où le Seigneur va nous appeler. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, que tu aimes la droiture, c'est une affaire de cœur. Et aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontairement dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple, quelle joie, qui se trouve ici, t'offrir volontairement ces offrandes. L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple cette disposition et ces pensées et affermis nos cœurs devant toi et que le peuple de Dieu dise un grand amen et amen. J'invite les musiciens à s'approcher. Seriez-vous prêts, vraiment, à prier cette prière comme je vais la prier à chaque jour en 2023? Je prie que mon cœur ne refuse jamais avec un œil sans pitié. Protège mon cœur, Seigneur. Je prie que mon cœur ne se refroidisse pas. Je prie que mon cœur reconnaisse toujours que c'est toi qui es la source. Et je prie que mon cœur se rappelle et se renouvelle. Verset 15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Je faisais un podcast avec Gary Wilkerson à la fin de l'année dernière. Et puis, il m'a pris par surprise. On était en podcast ensemble. Puis, il m'a beaucoup ému. Il m'a fait pleurer. Il m'a dit, tu sais, Pasteur Claude, on est enregistré, on est en podcast. Il dit, tu sais, Pasteur Claude, il dit, mon père, qui me parlait de toi, il me disait tout le temps, ça fait 20-30 ans que je connais Claude, puis il n'a jamais perdu sa passion pour les arts. J'étais touché que Gary Wilkerson avait dit ça à son fils de moi. Puis Gary me dit, bien, moi, ça fait 30 ans et plus que je te connais. Fait que je te pose la question, c'est quoi tu penses qui est? Il y a plein de choses. Mais c'est quoi tu penses qui fait? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui aide à ce que la passion en reste dans le cœur? Et moi, spontanément, j'ai répondu, j'ai jamais oublié ce que Jésus a fait pour moi. J'ai jamais oublié ce que le salut a fait dans ma vie. Je veux dire avec délicatesse, j'ai quelqu'un très proche de moi. Quelques années plus jeune, mais de ma famille proche, qu'on a grandi ensemble. Qui a passé les fêtes et est encore en ce moment en cellule, en prison. Et je veux dire à quel point je suis fier de lui parce qu'il est dans un parcours en ce moment de sobriété, un parcours de responsabilité, de réparation et Il est tellement fier de tous les efforts qu'il fait. Il s'en va vraiment vers une direction extraordinaire. Mais pendant le temps des fêtes, on est presque le même âge, pendant le temps des fêtes, quelques fois, là, le soir de Noël en particulier, puis le soir du jour de l'an, quand j'étais avec toute ma famille, puis les gens autour de moi, je me retirais dans la salle de bain. Puis je dis, Seigneur, je pensais à lui dans sa cellule. Puis je dis, Seigneur, si ce n'était pas de toi, là, si ce n'était pas de ton salut dans ma vie, je serais avec lui dans la cellule. Seigneur, c'est toi. Je disais de cette façon, j'en suis jamais revenu de mon salut. J'ai jamais pris pour acquis, jamais pris à la légère. Seigneur, c'est la seule motivation. Est-ce que vous comprenez que c'est la seule motivation pour Nueva Vida, l'investissement de la, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout gardé ici, l'investissement à La Prairie, à Châteauguay, à Drummondville, et à Sept-Îles, et à Charlevoix, et en ligne, et en ce moment, il y a trois églises qui demandent à devenir nouvelles. Et il y a des villes et des villes et des villes au Québec qui ont besoin. La seule motivation, c'est que tu n'oublieras pas. Tu te souviendras de ce que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, je te donne. C'est pourquoi aujourd'hui, je donne ce commandement. Parce que tu as déjà été un esclave et je t'ai libéré. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Et c'est pourquoi je te donne le commandement de donner. Je veux que le plus grand nombre d'hommes et de femmes possible puissent connaître la vie que le Seigneur Jésus a pour eux. Est-ce que vous dites Amen? Et je veux m'offrir à lui. Le dernier verset va vous surprendre. Je prie que mon cœur se rappelle et se renouvelle. Dernier verset 16 et 17. Si ton serviteur te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison. Et s'il se trouve chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Et il sera pour toujours ton serviteur. Wow, parce que là, le méchant verset pour finir ton message. Il faut que vous compreniez le contexte. Le chapitre complet, c'était l'année du relâchement. Dieu avait mis une loi dans l'Ancien Testament, dans sa compassion, même dans les lois civiles. Dieu avait mis une loi, Deutéronome 15, de courbeau complet, qu'à tous les 7 ans, les gens, là, voyaient, à tous les 7 ans, tous ceux qui avaient des dettes, leurs dettes étaient relâchées. Et à toutes les 7 fois 7 ans, le 50e, le jubilé, à toutes les 7 fois 7 ans, non seulement on relâchait leurs dettes, on effaçait leurs dettes, mais on leur remettait toutes les propriétés qu'ils avaient perdues. Combien aimeraient que le gouvernement du Québec et du Canada puisse suivre la parole de Dieu? Alors, après 7 ans, il y a un serviteur qui est là et puis il a payé sa dette. Mais parfois, ce qui arrivait, ce n'était pas un poisson comme ça, ça c'était un poisson moderne. Tous les historiens, tous les commentateurs disent, c'était ça le poisson. Un serviteur qui disait, moi là, je sais que je suis libre. Je n'ai plus rien à donner. Je ne suis pas obligé de donner rien du tout. Mais j'aime mon maître. Je suis bien avec toi. Et j'aime ta maison. Alors, je veux être un serviteur d'amour pour toujours. Et alors, le maître disait, OK, approche-toi. Puis pour sceller ce moment, l'oreille sur la porte, trou dans l'oreille, et avait une marque à vie. Vous savez que j'aime avoir des illustrations. L'autre fois, on avait un jeune homme qui est venu. J'ai mis la prière. Alors, j'ai besoin de volontaires ce matin pour... Non? Mais moi, c'est ça. C'est comme ça que j'essaie de vivre ma vie. Puis c'est comme ça que je veux vivre ma vie. Seigneur, je sais que je suis libre. Je sais que je ne suis pas obligé de rien te donner. Mais j'aime mon maître. J'aime ta maison. Je suis bien avec toi. J'aime ce que tu fais dans ma vie. Et moi, j'ai brûlé mes bateaux. Pas de regrets, pas de compromis, pas de regard à l'arrière. Tu peux me percer le cœur à nouveau. Je vais te servir par amour pour toujours, jusqu'à mon dernier souffle, même si d'autres ne le font pas, même si tu fais te blesser, même si c'est hors norme, même si c'est hors culture, même si c'est pas cool. Seigneur, moi, je vais te servir et je veux m'offrir à toi passionnément dans le nom de Jésus et que tout le monde dise un grand Amen et Amen.